Alors, c'est si vrai que...
Au risque d'être, je dirais, jugé comme je ne sais quoi.
C'est une première raison.
Donc c'est tout à fait important puisque...
Non, c'est pas tellement qu'on les connaisse mal.
Regards croisés. Un débat entre académiciens et personnalités. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour. Cultivées et commercialisées dans le monde depuis une dizaine d'années, les plantes OGM font l'objet de vives controverses. Début 2008, le gouvernement français a décidé de geler les cultures de maïs OGM après la remise d'un rapport scientifique sur la question. Alors, que se passe-t-il si les plantes OGM envahissent l'ensemble des espèces végétales? En ce sens, que provoquerait la contamination d'une plante OGM sur une plante biologique? Après 10 ans de mise sur le marché du soja transgénique, existe-t-il des études sur de potentiels effets sur la santé humaine ou animale? Les OGM sont-ils la réponse aux besoins alimentaires d'une population qui passera à 9 milliards d'habitants avant la fin du siècle? Les modifications génétiques de plants pourront-elles réellement permettre de cultiver des plantes sans pesticides et aux besoins en eau amoindris? Enfin, toucher à la génétique des plantes ne va-t-il pas bouleverser la chaîne alimentaire pour tous les insectes, oiseaux ou animaux qui dépendent des cultures? Pour apporter des éléments de réponse scientifique à ce débat sur l'acceptation ou non des OGM dans notre assiette, Pierre Feuillet et Gérard Toulouse sont avec nous en studio. Messieurs, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être ici au studio de Canal Académie au cœur de l'Institut de France. Pierre Feuillet, vous êtes directeur de recherche émérite à l'Institut National de la Recherche Agronomique, l'INRA, donc membre de l'Académie des Technologies et de l'Académie d'Agriculture de France. Vos travaux portent sur le système technologie, alimentation et société. Nous avions réalisé ensemble une première émission à partir de votre livre « La nourriture des Français, de la matrice du feu aux années 2030 », paru aux éditions Coué en 2007. Vous évoquiez en partie la question des OGM et vous serez ici, dans cette émission, le regard bienveillant sur ce regard croisé consacré aux OGM. Gérard Toulouse, vous êtes physicien, directeur de recherche à l'ENS à Paris, donc l'École normale supérieure, membre fondateur de l'Académie des technologies, ancien président du comité permanent sur l'éthique et les sciences de l'Alliance européenne des académies et également d'Eurosciences, vous me l'aviez précisé en préparant cette émission, et membre de l'Académie des sciences. Votre discipline ne vous confronte pas directement à la question des OGM, et encore, puisque vous êtes membre du comité d'éthique commun INRA-CIRAD, et nous aurons l'occasion de reparler de ce comité au cours de cette émission. Et donc, ici, un débat regard croisé sur les OGM, qui se veut bien sûr dans le dialogue courtois. Pour préparer cette émission, je me suis basée en partie sur l'avis du COMEPRA, qui doit être l'ancien comité d'éthique INRA-CIRAD, Gérard Toulouse. Qui correspond au comité d'éthique donc de l'INRA. Et celui-ci commence par une définition des plantes OGM. Alors j'aimerais déjà qu'on commence par une définition pour savoir si vous êtes d'accord tous les deux sur cette définition des OGM. Je vais lire ce qu'il est écrit. Le droit européen explique un organisme génétiquement modifié OGM qu'il est donc un organisme, à l'exception des êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication et ou par recombinaison naturelle. Gérard Toulouse, pour commencer, vous qui travaillez dans le domaine de l'éthique.
Oui, je pense que c'est une définition à partir de laquelle on peut avancer. Je pense que le point important, c'est de souligner que l'évolution des êtres vivants, comme Darwin l'a démontré, c'est la loi de la vie, et que là, avec les techniques du génie génétique, c'est une nouvelle dimension dans le mélange entre espèces différentes.
Mais est-ce que justement on est dans une accélération de l'évolution des espèces? Est-ce que c'est l'homme simplement qui accélère ce mouvement, ou est-ce que réellement c'est une révolution dans ce domaine-là, Gérard Toulouse?
Alors, je pense que nous sommes d'accord avec Pierre Feuillet pour souligner que c'est vraiment une rupture par rapport à l'évolution naturelle des millénaires et des millions d'années, milliards d'années qui nous ont précédés. Ne pas sous-estimer le caractère de rupture technologique de cette innovation.
Pierre Feillet, justement, sur la question de l'innovation technologique. Les OGM, nous devions y venir de toute manière avec l'évolution de la science.
Attendez, d'abord sur la définition, celle que vous avez donnée est tout à fait exacte, hein, je la partage. Elle est un petit peu technocratique. Hein, elle est sortie des bureaux de Bruxelles. Elle mérite peut-être une toute petite explication. D'abord, un organisme. Organisme génétique modifié, OGM, ça veut dire micro-organismes, plantes, animaux. Dans le langage courant, pour la majorité des gens, dans la rue, OGM, c'est plantes génétiquement modifiées. Ils ne pensent pas ni aux micro-organismes, ni aux animaux. Et je crois que notre conversation va porter sur les plantes génétiquement modifiées, ce que certains appellent des PGM. Bon, ça ne change pas grand-chose. Le deuxième point qui est important dans votre définition, c'est de dire que ce sont des plantes dont le matériel génétique a été modifié de manière artificielle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, artificiel, par rapport à ce qu'on faisait avant ? Auparavant, et depuis fort longtemps, et de manière plus efficace depuis une centaine d'années, les hommes, les agriculteurs, les généticiens, les sélectionneurs ont croisé des variétés appartenant aux mêmes espèces entre elles pour arriver à prélever les bons caractères de l'une de ces variétés pour les mettre dans l'autre variété. Mais tout ceci se passait dans la même espèce. La révolution technologique, la technologie de rupture, et je suis d'accord avec Gérard Toulouse là-dessus, que représente l'apparition des OGM, c'est le fait que grâce aux progrès de la biologie moléculaire et aux outils moléculaires dont disposent des biologistes, il est possible d'aller chercher un gène dans une autre espèce que celle de la variété que le vent a améliorée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il est possible pour, par exemple, introduire, comme cela a été fait, un gène de résistance aux herbicides dans du soja ou dans du coton, il est possible d'aller chercher ce gène qui n'existe pas dans d'autres variétés de coton ou dans d'autres variétés de soja, d'aller le chercher dans un micro-organisme. Et si on a besoin d'un gène qui serait dans un animal, on peut aller le chercher dans l'animal et le mettre dans la plante. Donc c'est une véritable révolution conceptuelle du système qui fait que, grâce à ces nouvelles techniques, l'homme a, dit-on, franchi ce qu'on appelle la barrière des espèces. L'appartenance à une espèce veut dire que l'organisme, les organismes qui appartiennent à cette espèce sont auto-féconds. Et appartenir à une autre espèce veut dire qu'on ne peut pas se féconder avec son voisin. Il y a donc là une véritable rupture. Et comme il y a rupture, ça mérite bien évidemment qu'on se pose des questions tout à fait spécifiques aux conséquences de cette rupture. Donc le débat sur les OGM est tout à fait légitime, tout à fait normal, tout à fait utile. Et on ne peut pas l'éliminer en disant « mais ce que l'on fait avec les OGM, on l'a toujours fait et les hommes l'ont toujours fait ».
Aujourd'hui, il semble que le débat soit caricatural, c'est-à-dire que, là je me base sur le rapport que j'ai pu lire, qui date de 2004, hein, donc qui date un petit peu, donc comité d'éthique COMEPRA. Il semble que le débat soit caricatural et que donc nous rangions d'un côté les industriels lobbies pro-OGM et d'un côté les José Bové, en d'autres termes. Alors est-ce que cette image-là est réelle ou est-ce qu'elle est caricaturale selon vous ? Gérard Toulouse, peut-être pour commencer. Est-ce que réellement les OGM sont aussi impopulaires ?
Bon, c'est un fait qu'il y a une polarisation et qui est devenue un peu politique d'ailleurs. Ça se voit dans les débats à l'Assemblée nationale ou même un peu gauche-droite, quoique pas tout à fait, mais enfin ça prend ce côté-là un peu. Et puis on a la figure de José Bové dont le père par ailleurs était un fameux cadre de l'INRA, qui est l'Institut national de la recherche agronomique. Donc ces éléments-là, il y a eu les faucheurs d'OGM, dont le Parlement vient de voter une loi pour les réprimer, etc. Donc c'est sûr que, à mon sens, il y a une polarisation qui est excessive de caricature d'un côté à propos de l'autre. Ceci dit, c'est pas tout à fait étonnant dans la mesure où il y a un problème de pente glissante. C'est-à-dire qu'il y a eu la même chose pour l'embryon, si vous voulez, lorsqu'il y a eu la fécondation in vitro, etc. C'est quand même la bioéthique, l'éthique des sciences. Pour le grand public, ça a commencé avec la bioéthique. Et c'est vrai que la manipulation de la reproduction humaine, c'est quelque chose qui touche à l'expérience humaine la plus profonde, la plus intime, etc. Et donc, on peut comprendre qu'il y ait une polarisation très forte sur des sujets qui peuvent effectivement entraîner insensiblement extrêmement loin. Or, c'est vrai qu'à partir du moment où on utilise cette technologie de rupture, nous sommes d'accord là-dessus, on peut faire un nombre invraisemblable de choses dont certaines sont possibles mais pas souhaitables.
Pierre Feillet, quelle est votre idée là-dessus? Et puis aussi, quelle est l'idée de l'Académie d'agriculture sur la question des OGM?
Oh, l'Académie d'agriculture n'a strictement aucune position officielle sur la question. Donc,
vous voulez dire que les membres sont divisés?
Non, le débat n'a pas été ouvert par son secrétaire perpétuel. Ceci étant dit, c'est vrai que nous sommes dans une discussion très conflictuelle qui ne facilite sûrement pas l'émergence d'un savoir partagé. D'un côté, les obscurantistes de la science qui ne comprennent rien au progrès, ceux qui seraient contre les OGM. De l'autre côté, ces scientifiques à la solde des grands industriels qui croient que la science va résoudre tous les problèmes du monde et dont la parole n'est pas celle de la vérité. Et si on pose le débat dans ce cadre-là, et malheureusement il l'est souvent, on n'arrive pas à poser les bonnes questions, simplement, sereinement, et comme on va le faire maintenant, et essayer de faire avancer ce débat. Les questions, elles ne sont pas fondamentalement, au début, de savoir si les uns sont tous abrutis et les autres tous pourris. Les questions qui se posent, c'est de savoir quelles sont les conséquences de cette technologie sur, finalement, le développement de l'humanité à long terme. Sur des questions que vous posez, est-ce que ces technologies vont permettre de nourrir l'homme, les 9 milliards dont vous parliez
nous
en 1950,
dans
un environnement protégé, en pouvant encore les nourrir dans 50 ans ou 150 ans, ce qu'on appelle le développement durable? Est-ce que la santé de ceux qui consomment ces plantes transformées est mise en danger? Est-ce que la libre possibilité de cultiver des plantes sans OGM est menacée? Est-ce qu'au contraire, on va consommer moins d'herbicides et moins attaquer l'environnement? Enfin, les questions qu'il faut prendre les unes avec les autres n'arrivent pas à être posées sérieusement parce que dès qu'il y a, sur l'une de ces questions, une prise de position qui semble être favorable ou défavorable au développement des OGM, le débat souvent s'arrête au profit de l'agression en disant « Vous dites ça non pas parce que c'est vrai ou parce que vous le pensez, mais vous le dites parce que vous êtes à la solde des grands industriels ou parce que vous considérez que vous êtes incapable de comprendre ce qu'est la réalité de la science et vous la déformez de manière idéologique.
Vous voulez dire que les scientifiques manquent de crédibilité en d'autres termes?
Oui, oui. Les biologistes ont un passé qui ne s'est pas effacé dans l'esprit de nos concitoyens qui, il faut le reconnaître, sont très majoritairement opposés aux OGM. Hein, c'est ce que montrent tous les sondages. Hein, ils n'en veulent pas. Mais ils se méfient un peu des biologistes. Ils ont une histoire. Ils se rappellent l'histoire de l'hormone de croissance. Ils se rappellent l'histoire de la vache folle. Ils se rappellent l'histoire du sang contaminé. Et chaque fois, ils ont entendu...
De l'amiante.
Et de l'amiante. Mais là, je reste dans la biologie.
Oui.
Ils ont chaque fois entendu d'éminents savants leur dire « Mais attendez, il n'y a strictement aucun problème, faites-nous confiance, faites confiance à la science. » Et ils se disent « Bah attendez, non, pourquoi on vous ferait confiance ?» Donc on est dans une étude, dans une situation un peu de déstabilisation vis-à-vis de la parole scientifique. Et peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, le comportement des acteurs politiques n'est pas là. Pour redonner confiance à la parole scientifique, je m'expliquerai là-dessus tout à l'heure.
Alors, avant d'aborder justement les arguments pro et anti-OGM, Gérard Toulouse, vous vouliez rajouter quelque chose peut-être sur la crédibilité?
Oui, je voulais rajouter quelque chose, c'est-à-dire que c'est vrai que le débat, on déplore souvent la mauvaise qualité du débat, mais je voudrais exprimer ma totale confiance que c'est possible de sortir de cette situation. Et je crois que le Grenelle...
De cette situation
de blocage, de caricature, et que... Le Grenelle de l'environnement, globalement, me semble avoir été dans le sens d'un dialogue vraiment intéressant, que le développement durable est quelque chose qui est en train de transformer complètement notre enseignement secondaire, que les jeunes qui se dirigent vers les études scientifiques sont souvent animés par des motivations liées au développement durable. Donc je suis convaincu qu'il est important pour nous d'arriver à favoriser les bons moyens de sortir d'une impasse.
De sortir de l'OGM, des OGM ?
Non, de sortir d'une impasse sur la discussion, sur le débat concernant les OGM.
Parce que suite au Grenelle de l'environnement, comment dire, les cultures de maïs, il y a un moratoire, mais les cultures de maïs OGM, par exemple, n'ont pas été renouvelées, là, par exemple, pour cette année.
Oui, donc d'une certaine manière, moi je crois que, en gros, c'est qui va piano, va sano. Hein, et qu'il y a dans la science une tendance à l'emballement, parce que c'est le premier qui rafle la prime. Hein, donc il faut prendre les brevets, il faut être les premiers, etc. Bon, regardez la conquête de l'espace. Hein, en 50 ans, l'espace est rempli de débris. Bon, c'est évident qu'il y a eu un emballement, la compétition, chaque pays voulait avoir ses lanceurs, ses satellites, etc. Et on a rempli l'espace de débris. Bon, je pense qu'il y a un risque du même genre pour les biotechnologies qui sont présentées par certains comme le moyen d'être gagnant dans la course à la compétitivité, etc. Et que c'est un risque réel. Donc, un dialogue science et société a de bonnes raisons de s'instaurer. Et l'important, c'est que ce soit un dialogue intelligent, productif. Et je pense que ce n'est pas impossible du tout.
Alors qui va piano, va sano, oui. Mais il faut rappeler que le premier OGM, plante génétiquement modifiée, oui, elle date de 1983, c'est-à-dire de 25 ans. Mmh. C'est-à-dire que ce débat sur cette plante génétiquement modifiée, ça fait 25 ans que d'abord les scientifiques l'ont eu entre eux, et ensuite les citoyens, plutôt à partir des années 95, lorsque l'on a vu arriver dans les champs des plantes de grande culture transformées. Mais c'est quand même un débat qui ne date pas d'avant-hier. Hein. Mmh. Le problème n'a pas émergé il y a 2 ou 3 ans. 25 ans de réflexion déjà de la communauté des biologistes à partir d'une plante transformée qui était du tabac en 83, et le premier micro-organisme transformé, sauf erreur de ma part, c'est 74, donc on est encore plus de 30 ans. Et les biologistes eux-mêmes à cette époque avaient décidé d'un moratoire pour essayer d'y voir plus clair. Donc je suis d'accord, il ne faut pas aller trop vite, mais la question que je me demande, est-ce que l'on va vraiment trop vite, puisque la réflexion, elle a 25 ans de recul.
Je vous propose de marquer une première courte pause, Pierre Ferrier et Gérard Toulouse. Dans la deuxième partie, nous allons aborder les arguments pro et anti-OGM. Tout de suite.
L'écrivain Frédéric Vitoux de l'Académie française se confie à Canal Academy. Il raconte sa passion pour Céline, sa biographie de Rossini, son œuvre de critique, de romancier, de scénariste. Frédéric Vitoux, une vie littéraire bien remplie, dans l'émission En habit vert sur Canal Academy.
Suite de notre émission Éclairage, toujours en compagnie de Pierre Feuillet et de Gérard Toulouse, dans cette deuxième partie d'émission, nous allons bien sûr aborder les arguments pro-OGM et anti-OGM. Alors, dans les arguments anti-OGM, la grande crainte, c'est la contamination des semences, des cultures, par les autres champs à côté, les champs OGM. Alors, lors de cette pause, vous aviez une discussion animée. Pierre Feuillet, vous qui avez un regard bienveillant sur les OGM, que pouvez-vous répondre à cette inquiétude de contamination ?
Alors, il y a un risque de contamination d'un champ non-OGM de maïs par un champ OGM de maïs à proximité.
Vous parlez de maïs parce que c'est le seul, cultivé en France.
Je parle de maïs parce que en France, le débat récent a tourné autour d'une variété de maïs OGM de Monsanto, pour lequel il y a eu un moratoire, et qu'il n'y a pas d'autres plantes transformées qui sont autorisées en France. Pour une raison d'ailleurs très simple, c'est qu'il n'existe pas de plantes sauvages réceptrices suffisamment voisines du maïs pour recevoir le pollen du maïs OGM. Donc on n'a aucun...
Il y avait une première sécurité, en d'autres termes.
Donc aucun danger de voir des plantes sauvages recevoir les gènes de résistance qui sont présents dans l'OGM maïs.
Alors,
ce qui n'est pas le cas pour le colza, si on l'avait autorisé, parce que le colza a, sur le sol français, des espèces extrêmement voisines qui sont capables d'être fécondées par le pollen du colza. Donc, si on autorisait certains colzas génétiquement modifiés, on risquerait de voir des espèces sauvages incorporer ces gènes et devenir eux-mêmes OGM sauvages, et donc avec un risque de dissémination non contrôlée. Mais dans le cas du maïs, ce risque n'existe pas. Le risque qui existe, c'est la contamination du champ du voisin.
Alors, une fois que ce champ est contaminé, qu'est-ce qui se passe ?
Attendez. Une fois qu'il est contaminé, il est contaminé. Alors, imaginons que ce soit un champ dont le propriétaire a mis en place une culture de manière à ce que son maïs soit reconnu issu de l'agriculture biologique. Il y a une réglementation qui veut que si le taux de contamination par des graines OGM sont présents dans sa récolte à un niveau supérieur à 0,9%, son champ est déclassé. Il n'est plus le droit d'être appelé maïs biologique, et donc il y a à la fois un préjudice financier, et puis également, je pense, très profondément, un préjudice moral de la part d'un agriculteur qui est très attaché au caractère biologique de ses plantes.
Et environnemental, donc.
Environnemental, on peut en parler aussi, mais c'est autre chose. Mmh. Donc il y a un préjudice moral et financier. Donc il est normal qu'il puisse être indemnisé. On sait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas de trouver... Alors je ne sais pas ce que va décider la loi. Hein. Est-ce que c'est le propriétaire du champ voisin qui va être responsable ? Est-ce que ça va être des assureurs ? Est-ce que ça va être le semencier ? Je ne sais pas encore ce qui est décidé, mais il est normal, de mon point de vue, qu'il soit indemnisé. Par contre, toute l'agriculture biologique n'est pas touchée par ce phénomène. La majorité des l'agriculture biologique, ce sont des fruits, ce sont des légumes ou du blé. Ceux-ci ne peuvent être en aucun cas contaminés. Donc les risques de contamination ou d'agression vers l'agriculture biologique se limitent uniquement au maïs cultivé biologiquement autour de ce champ d'OGM. Mais à condition qu'il soit à une distance très proche. Les travaux ont montré que s'il se trouvait à 500 mètres ou même à 100 mètres, il n'y avait pas de contamination à un niveau auquel... le droit rend ce maïs biologique, non biologique.
D'accord, malgré le vent, malgré les éléments extérieurs.
Les abeilles.
Les abeilles, on va en parler. Mais le risque de contamination, il y a trois facteurs. Il faut d'une part que le pollen soit transporté. Alors ça, il peut être transporté beaucoup plus loin que 50 ou 100 mètres. Hein. On sait qu'il peut même être transporté à des kilomètres, ou même à des centaines de kilomètres. Bon. Mais encore faut-il que ce pollen soit viable. Il faut qu'il soit vivant pour pouvoir féconder la plante. On sait par exemple que s'il part à haute altitude pour être transporté fort loin, il sera mort. On sait que si pendant ce transport il a plu, il n'est plus actif. Donc il faut qu'il soit viable. Troisièmement, il faut que la fleur du maïs du champ biologique qui est à côté soit dans un état physiologique identique à celui du maïs qui est à côté pour lui aussi pouvoir être fécondé. Ce qui n'est pas nécessairement le cas. Donc il faut voir quelle est... c'est la somme. Il faut que ces trois facteurs soient réunis pour qu'il y ait contamination. Bien, tous les travaux ont montré, moi je ne fais que les citer, je ne sais pas moi qui les ai faits, qu'au-delà de 50-100 mètres, il n'y a pas contamination à un niveau supérieur à ce 0,9%.
Gérard Toulouse, justement, sur cette question-là de la contamination. Alors effectivement, Pierre Feuillet parle du maïs. J'imagine qu'à terme, on ne va pas cultiver que du maïs OGM. Alors est-ce que ces éléments que vous donnez, ces arguments que vous donnez, Pierre Feuillet, Gérard Toulouse, ça vous convainc ?
Mais si vous voulez, à partir du moment où il y aura du blé transgénique, ça veut dire que, comme vient de l'exprimer très... rigoureusement Pierre Feuillet, j'ai toute confiance en son honnêteté scientifique, et ça le prouve, c'est que, bon, à ce moment-là, le problème se posera pour chaque nouvelle espèce. Et donc, on peut très bien comprendre que nos concitoyens aient le sentiment que ce soit une pente glissante. De même que, encore une fois, je disais pour les manipulations sur l'embryon, quoi. Il y a quand même un besoin de savoir qu'il y a des limites qui sont reconnues par la société. Alors, je voudrais faire une petite remarque aussi, c'est que la France abrite l'UNESCO, hein, et le patrimoine mondial de l'UNESCO, tout le monde connaît ça. La France, chaque année, présente des propositions pour le patrimoine. Donc la France et l'Italie sont des pays qui ont un patrimoine monumental. Maintenant, c'est étendu à la nature. Il y a le patrimoine naturel, il y a le patrimoine immatériel. Il y a une proposition que la gastronomie française soit considérée comme patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et on peut se demander... C'est pour ça que je ne suis pas absolument universellement pour ou contre. C'est que ça dépend des pays. Et je pense qu'un pays comme la France ou l'Autriche ou l'Italie peuvent considérer qu'ils sont suffisamment riches, qu'ils sont suffisamment de richesses monumentales, etc., etc., pour ne pas se lancer dans une aventure qui n'est pas vitale pour eux. Voilà. Donc je pense qu'il y a une question de choix et qu'on peut admettre que les citoyens aient des priorités. Voilà. Et qu'ils préfèrent peut-être ne pas avoir la pointe du progrès biotechnologique parce qu'ils ont d'autres choses par ailleurs. Et qu'en revanche, on peut très bien comprendre que le Brésil ou l'Argentine voient les choses sous un angle différent. Donc moi, personnellement, je vous livre mon point de vue personnel, je ne vois aucune objection au fait qu'on importe des produits venant de... du Brésil ou de l'Argentine. Ça ne me gêne pas du tout. Je suis même prêt à les manger. Mais je comprends très bien qu'il puisse y avoir ce sentiment qu'en France, nous avons des priorités différentes.
Vous êtes donc pour la consommation, en d'autres termes, par exemple, du maïs génétiquement modifié ou du soja, mais pas le cultiver chez nous.
Non, je peux comprendre cette attitude.
Oui.
Et je pense qu'elle mérite un débat et que on a parfaitement le droit, enfin moi c'est un peu mon point de vue, et je sais parce que j'ai beaucoup de liens avec l'Académie des sciences du tiers-monde, si vous voulez, depuis très longtemps, qui a son siège à Trieste, et lors du 40e anniversaire du centre Abdus Salam, etc., j'ai entendu tous les plus grands scientifiques du tiers-monde. Et en gros, leur message, c'était, si nous voulons être dans certains domaines dans le peloton de tête, nous devons aller dans les domaines qui restent ouverts. Et donc, essentiellement, les biotechnologies, les OGM et les cellules souches. Parce que les autres pays avancés, eux, leur population, ont des réticences à cet égard. Nous n'avons pas le choix. Nous sommes obligés, si nous ne voulons pas être toujours des suiveurs, ce qui nous reste, ce sont les domaines qui ne sont pas considérés prioritaires. Et moi, je pense que ça, c'est un vrai problème de solidarité de l'humanité. Et donc, autrement dit, je trouve tout à fait légitime que certains pays du tiers-monde choisissent de travailler dans des domaines comme les OGM ou les cellules souches, que ne sont pas forcément prioritaires dans des pays riches, comme les pays européens.
Mais on sent que vous marchez sur des œufs quand même quand vous vous exprimez là.
Non, mais
c'est-à-dire,
je veux choquer personne, mais je veux qu'on respecte. Je veux dire, je pense qu'on doit respecter une telle attitude que j'essaye d'exprimer aussi modérée que possible, hein, parce que je ne veux pas du tout imposer mes choix. Hein. Ce que je souhaite, c'est que la population puisse faire un choix réfléchi et qu'entre en jeu une réelle solidarité intellectuelle et morale de l'humanité qui fait partie des missions de l'UNESCO.
Alors justement, vous parliez de l'Académie du Tiers-Monde. Je vais rebondir sur cet argument justement d'alimenter la population. Alors c'est un argument que l'on trouve dans votre livre, Pierre Feillet.
Oui.
Il y a un chapitre sur les 5 scénarios possibles d'une alimentation en 2030. Votre assiette en 2030, 5 scénarios possibles, qui était d'ailleurs l'objet de notre émission la fois dernière. Justement, vous expliquez que les OGM, un des points qui pourrait être positif, c'est de pouvoir nourrir à l'issue de 2050, où nous serons à peu près 9 milliards d'habitants, voire plus, une grande partie de la population qui déjà actuellement meurt de faim.
Je vais répondre à votre question,
oui.
Mais puisqu'on est dans un débat croisé, je voudrais faire mes propres commentaires sur ce que vient de dire
Gérard Toulouse.
Parce que j'y vois un certain paradoxe. À la fois le fait de dire... Les OGM, les pays en développement peuvent en avoir besoin pour assurer leurs ressources alimentaires, et je suis assez d'accord là-dessus. et que donc il serait bien que ces pays s'approprient cette technologie pour la mettre en place chez eux, implicitement, en disant ça, Gérard Telos nous dit, ben, finalement, il n'y a pas de risque ni pour la santé, ni pour l'environnement, puisque je recommande à ces pays de s'approprier cette technologie. Et à ce moment-là, je me dis, mais pour quelle raison donc faut-il que les citoyens français n'y aient pas accès? Alors, la réponse la plus fréquente à cette question que je me pose, c'est de dire, mais parce que les citoyens n'en veulent pas.
On ne connaît pas encore les risques.
La réponse principale, c'est parce qu'il y a un refus. Hein, et il y a une liberté de choix pour ce que l'on va consommer.
Mais un refus motivé par une peur, certainement.
Oui, mais une peur, etc. Maintenant, on peut en analyser les éléments. Mais très objectivement, si vous interrogez la majorité des Français sur le sujet, cette peur, et c'est celle qu'ils ont reçue à travers des informations qui leur ont été transmises essentiellement par des médias, mais qui ne proviennent pas de leur propre analyse. Et j'en ai la meilleure preuve que l'on a peu entendu dire dans des reportages des consommateurs interrogés en disant « moi je ne veux pas manger des plantes génétiquement modifiées parce qu'elles sont pleines de gènes, je préfère manger les plantes qui n'en ont pas ». Ce qui prouve une complète méconnaissance, que je ne le reproche pas, mais du sujet. Donc la question qu'on peut se poser, pourquoi donc, dans le cas de ces OGM, faut-il absolument conforter les citoyens dans l'idée que c'est leur plus grande des libertés alimentaires que de ne pas en consommer, si en même temps, de nombreux travaux scientifiques nous disent qu'il n'y a pas de conséquences pour la santé. Parce qu'aujourd'hui, dans le cas du maïs...
Et c'est la question que j'allais vous poser, justement, sur les conséquences sur la santé.
Voilà, mais alors je ne veux pas parler des OGM. Mm-hmm. De même que je ne veux pas vous dire les champignons sont bons et comestibles. Mm. Je vais vous dire... Le cèpe est un bon champignon qu'on a plaisir à manger et qui ne pose pas de problème sanitaire, de même que l'orange ou que la morille. Par contre, il y en a d'autres où vous garderez bien d'en manger. Donc on ne peut pas dire les champignons sont bons, on peut dire il y a un champignon qui est bon, il y a un champignon qui est mauvais.
Alors là,
les OGM, c'est pareil. Il faut les prendre au cas par cas.
Alors le soja que l'on connaît maintenant depuis une dizaine d'années.
Ouais, prenons plutôt notre maïs.
Nous restons avec notre maïs.
Oui, qui est celui que nous avons en France, hein, que nous avons vu en France, 20 000 hectares, rien d'ailleurs en surface par rapport aux 2 millions d'hectares de maïs cultivés en France. Mais il a été étudié très en profondeur par à la fois l'Agence française de sécurité sanitaire, par l'Agence européenne de sécurité sanitaire, par l'Agence américaine de sécurité sanitaire. Et tous les travaux convergent de tous ces experts que je considère comme indépendants.
C'était ce que j'allais pouvoir dire sur les détracteurs qui auraient pu vous répondre qu'ils n'étaient pas forcément indépendants.
Oui, mais vous savez, moi j'ai vu récemment sur un site anti-OGM, les Amis de la Terre, nous expliquer qu'il était scandaleux qu'un chercheur allemand participe à la commission d'évaluation des OGM au niveau européen parce qu'il avait organisé un grand congrès sur la génétique et que parmi les sponsors, il y avait la société Bayer et que donc il était acheté et vendu par Bayer. Alors que tout le monde sait dans la communauté scientifique que lorsqu'on participe à un congrès, on fait souvent appel à des sponsors, mais qu'il y a une liberté totale qui reste aux scientifiques présents. Donc il y a de la désinformation là-dessus. Mais je reviens. Notre maïs Monsanto, il a donc été soumis à toute une série d'expertises et à des évaluations par des gens compétents. J'ai plus tendance à croire à cette succession de comités d'experts, à ce qu'ils nous disent en nous disant « il n'y a pas de danger pour la santé ». J'ai plus tendance à croire ces experts-là que le seul professeur français qui va nous dire « j'ai refait tous les travaux, tous se sont trompés et moi, je vous dis que c'est dangereux ». C'est la parole d'un scientifique contre une communauté scientifique. Et je rajouterais « tout le monde n'est pas Galilée ».
Est-ce que,
ça se saurait.
Est-ce que, justement, l'idée, c'est d'avoir, et je crois que c'est ce qui ressort de cet avis sur le comité, du comité d'éthique INRA-CIRAD, enfin, qui s'appelait COMEPRA avant, est-ce que, justement, l'idée, c'est pas qu'il y ait un peu des deux ? C'est-à-dire qu'on ne se tourne pas forcément, en 2030, par exemple, vers un tout des cultures génétiquement modifiées.
Ah oui, moi je ne dis pas ça du tout.
C'est un documentaire qui est sorti il n'y a pas longtemps de Marie-Monique Robin, oui, oui. Justement sur Monsanto, oui. Qui bon, expliquait ça... que 90% cultures étaient génétiquement modifiées, par exemple.
Ça n'engage que la journaliste qui le dit. Moi, mon point de vue est très clair et sans ambiguïté. C'est de dire que pour résoudre les problèmes de la faim dans le monde, il faut faire appel à toutes les technologies et toutes les solutions possibles et à toutes les traitements économiques et politiques possibles. La faim dans le monde, c'est un problème politique, c'est un problème économique, c'est un problème d'appropriation du savoir existant, c'est un problème d'une meilleure gestion de la biodiversité, c'est un problème de l'amélioration traditionnelle des plantes existantes, c'est un problème de meilleure conduite culturelle, c'est un problème de meilleure irrigation, c'est aussi un problème de nouvelles plantes plus performantes, des OGM par exemple. Les OGM est l'un des atouts du système. Il est très clair que ce n'est pas les OGM seuls, uniques, qui vont réduire tous les problèmes de faim dans le monde. Ça, moi, je suis très clair là-dessus.
Gérard Toulouse, avant de marquer une deuxième pause, vous vouliez rajouter, je suppose, quelque chose, en tout cas pour rebondir sur les propos de Pierre Feuillet.
J'ai envie de dire énormément de choses. Il y a les réserves de biosphère. Vous savez, qui existe déjà depuis plus de 30 ans, presque 40 ans maintenant. Oui. C'est un programme de l'UNESCO qui s'appelle « L'homme et la biosphère ». Donc, il y a cette idée qu'il peut y avoir des régions qui ont un développement particulier. Donc, il y a diverses contraintes, etc., mais qui sont acceptées par la population. Et il me semble que cette idée de réserve de biosphère est une idée féconde qui peut s'appliquer à la notion d'OGM. Parce que, comme ça n'a pas été encore dit, mais les assureurs ne veulent en aucun cas assurer les cultivateurs contre le risque de contamination OGM.
Donc il y a encore un décalage.
Ça veut dire que,
entre les cultivateurs
ça veut dire que c'est un risque qu'ils se sentent incapables de maîtriser, de mesurer, de contrôler, etc. Donc c'est quand même une angoisse que je peux comprendre chez les cultivateurs qui sont attachés à maintenir des traditions tout à fait honorables et qui se sentent à la merci de choses dont ils ne sont absolument pas responsables. Donc je pense que cette idée de réserve de biosphère, c'est quelque chose qui pourrait être aménagé en incluant cette dimension de maintenir des cultures qui n'utilisent pas, c'est à titre provisoire, on peut toujours changer de statut, et c'est évolutif, mais qui permettent de rassurer les gens sur un horizon de temps suffisant.
Nous marquons une seconde pause, si vous voulez bien, Gérard Toulouse, Pierre Feuillet, et nous nous retrouvons tout de suite après pour la troisième partie de cette émission. À tout de suite.
Florence Delay de l'Académie française sur Canal Académie. Elle aurait pu nous parler de civilisation hispanique ou de cinéma. Elle fut Jeanne d'Arc à l'écran. Non, elle a choisi de rendre hommage à un homme hors du commun, l'évêque Daniel Pézeril. Écoutez Florence Delay dans l'émission Au fil des pages sur Canal Académie.
Suite de notre émission Éclairage, toujours en compagnie de Gérard Toulouse et de Pierre Feuillet. Dans cette troisième partie d'émission, Gérard Toulouse et Pierre Feuillet sur les OGM, regard croisé. Donc, je vais commencer, si vous le voulez bien, par les propos de Gilles-Éric Serralini, qui est professeur de biologie moléculaire à l'Université de Caen, et également président du conseil scientifique du CRIGEN, si je prononce bien, et qui donc s'est exprimé à l'occasion de l'exposition à la Cité des Sciences à Paris, à la Villette, sur l'exposition justement consacrée aux OGM, qui a d'ailleurs lieu jusqu'au 28 septembre 2008. Alors il explique, donc je le cite, « À mon avis, une erreur historique, c'est que le monde s'interroge sur les effets des OGM, sur la santé, et qu'aucune compagnie n'a pu imposer aux politiques et aux compagnies d'en donner à manger à des rats pendant plus de 3 mois. » Alors, justement, sur quoi se basent les industriels ou les scientifiques pour dire qu'il n'y a pas de risque sur la santé si on ne peut pas faire d'études, justement, ne serait-ce que sur les animaux ?
Alors
Pierre Feillet.
J'ai deux commentaires. Le premier, professeur Serralini fait allusion aux dossiers dont je parlais tout à l'heure, qui ont été expertisés par ses instances officielles et que lui-même a repris en disant « les données de ce dossier démontrent que les OGM donnés à ces rats ont des effets sur leur physiologie et des effets négatifs ». Et sur ce point-là, il y a une forte dénégation des toxicologues autres que lui-même, qui n'est d'ailleurs pas toxicologue, pour dire que ses propres conclusions sont elles-mêmes erronées. Bon, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est un peu de la polémique. Le deuxième point est plus important. La question qui est posée indirectement par Serralini, c'est de dire comment évaluer la non-toxicité des OGM. Et c'est un problème très difficile qui se pose d'ailleurs pour toute nouvelle plante. D'une manière traditionnelle, un toxicologue, pour évaluer la toxicité d'une substance, il a l'habitude de la faire consommer à un animal, à un rat, à un cobaye, à des doses d'habitude 10, 100 fois plus élevées que la dose qui est normalement utilisée, jusqu'à voir s'il y a un effet. Et il détermine de cette manière une dose minimum toxique. Mais cette approche-là est tout à fait impossible avec des aliments, parce qu'on ne peut pas donner une tonne de maïs par jour à un rat, bien évidemment. Donc il faut trouver d'autres solutions. Et les solutions qui ont été retenues sont multiples. D'une part, on fait appel à ce qu'on appelle des principes d'équivalence, c'est-à-dire qu'on compare la composition, par exemple, d'un maïs normal à un maïs OGM, et on voit s'il y a des différences dans la composition. C'est une première approche. On peut se préoccuper de savoir si le produit ne va pas être allergique. Donc à ce moment-là, on regarde quelle est la structure de la protéine. Et en fonction de ça, il y a de bons modèles prévisionnels qui permettent de dire oui ou non, ce n'est pas allergique.
Mais ces travaux de recherche, les industriels sont obligés de les mener avant
absolument,
de mettre absolument, en place,
absolument.
De vendre.
Ils présentent des dossiers très pointus, très coûteux, ce qui fait que d'ailleurs que de petites sociétés ne peuvent pas y avoir accès de nature, d'effets toxicologiques, qui sont souvent des protocoles qui ont été parfaitement définis. Il ne faut pas oublier que ces maïs-là, ils sont quand même consommés déjà depuis... Ils sont consommés par les animaux, d'ailleurs. Mm-hmm. Ils ne sont pas consommés directement par l'homme. Le maïs doux qui est consommé par l'homme n'est pas OGM en France. Alors, on dit, mais attendez, la vache qui va manger le maïs OGM... va incorporer ces gènes et ça risque d'avoir des effets sur le lait. Donc il faut dire que le lait est OGM et que le lait est dangereux. Je dois dire que sur le plan du raisonnement, j'ai un petit peu de peine à suivre. J'ai un petit peu de peine à suivre parce qu'il n'y a pas le début d'un raisonnement. Je ne dis pas d'une preuve, d'un raisonnement qui permet de penser que parce que une vache a mangé un maïs OGM, son lait va être contaminé. Rien ne permet de dire ça. C'est vrai qu'on peut... Mais peut-être qu'il faut faire l'essai pendant 50 ans. Qui va faire les essais pendant 50 ans ?
Justement.
Est-ce que lorsqu'on a importé le kiwi en France il y a une dizaine d'années, on a fait des essais ? Il faut savoir que sur la pomme de terre... par les tests dont on parle, qui sont utilisés pour les OGM, il y a quelques années, on a refusé de nouvelles variétés de pommes de terre parce qu'elles comportaient des substances, des alcaloïdes toxiques en trop grosse quantité. Donc ce sont les mêmes procédures qui sont utilisées.
Et justement, vous parlez, est-ce qu'il faut attendre 50 ans ? Gérard Toulouse, lorsque l'on lit les différents papiers que vous avez publiés dans les différents articles, on a l'impression qu'à chaque fois, on veut aller trop vite et qu'on manque de recul, en fait. Et c'est un peu ce que vous dites dans tout ce que vous pouvez écrire, c'est attention, vous tirez la sonnette d'alarme en disant attendons déjà de voir les résultats avant de vraiment l'étendre, là en l'occurrence pour les OGM, d'étendre ces recherches à de la culture, justement, pour manger, pour survivre.
Oui, je vais répondre à votre question, oui. Mais je ne connais pas M. Serralini. J'ai vu son nom, etc., mais j'ai rencontré dans un colloque, et puis après, il est venu à mon laboratoire, on a discuté, quelqu'un qui s'appelle M. Frédéric Jacquemart, et qui est l'un des animateurs du groupe international d'études transdisciplinaires, GIET, et je pense que c'est vraiment quelqu'un qu'il faut écouter. Je crois qu'il est membre de la commission du génie biomoléculaire. C'est quelqu'un qui a travaillé à l'INSERM, etc. Et il connaît beaucoup mieux ces questions d'OGM que moi. Et je trouve dommage que sa voix ne porte pas davantage. Parce qu'on peut toujours prendre des opposants caricaturaux. Alors, José Bové joue le rôle admirablement, etc. Mais je trouve que ça serait intéressant. D'ailleurs, on en a discuté avec Pierre Feillet. Je crois qu'on va faire des choses à l'Académie des technologies. Par exemple, l'avocat de José Bové, qui s'appelle Maître François Roux, est quelqu'un qui s'exprime, qui fait attention à chaque
assez
mot
mesuré.
Qu'il dit, etc. Et je pense que ça serait très, très intéressant de l'écouter. Alors maintenant, c'est un fait. Si vous voulez, au moment où il y a eu le vol de Gagarine, il y a Hannah Arendt, la philosophe, a écrit un livre qui s'appelle « The Human Condition ». En français, c'est « La condition de l'homme moderne », parce que André Malraux était déjà passé. Et il y a un prologue que, à mon avis, tous les élèves du secondaire devraient lire. Ça fait une dizaine de pages. Mais elle évoque cette idée. Il y a des gens qui ont dit « Enfin, l'homme va pouvoir s'échapper de la prison terrestre ». Il y a cette idée de larguer les amarres, hein, qui est dans l'esprit humain. Moi, je voulais être explorateur quand j'étais enfant, hein, comme Christophe Colomb, découvrir des mondes, etc. C'est absolument naturel. Mais je pense qu'il faut quand même faire attention, parce que l'histoire montre que ces emballements peuvent être totalement irréfléchis, et que, d'une certaine manière, on a là un domaine, quand on dit les OGM, c'est tellement vaste. Pierre Feillet le disait très bien, c'est comme les champignons. Il y en a des tas qui seront très mauvais, vénéneux, etc. Donc on ne peut pas dire qu'on est pro-OGM ou contre les OGM. Je vais prendre un autre exemple qui est celui des machines à vapeur. Bon, c'est ça qui a permis la révolution industrielle et c'est ça qui a permis à l'Occident de conquérir la planète, d'installer des chemins de fer partout. Mais il a fallu l'explosion de milliers et de milliers de bateaux à vapeur sur le Mississippi pour que enfin il y ait une... C'était la première régulation fédérale sur les risques. Les machines à vapeur explosaient, tant pis. Il n'y a pas de risque zéro. Bon, alors, tout à l'heure, quand je parlais des pays du Sud, ils ont envie de participer au progrès. Ils ont envie de le faire en première ligne. C'est pas moi qui leur dis de choisir les OGM pour résoudre leurs problèmes d'alimentation. Ils ont diagnostiqué qu'il y avait ces deux domaines où, à cause des réticences des pays riches, où les gens n'en ont pas vraiment besoin, c'était un domaine où ils pouvaient exceller. Donc c'est pour ça que je suis favorable à ce qu'ils fassent ce qui est nécessaire pour se faire respecter de nous. Voilà. C'est ça, mon point.
En France, le maïs, bien sûr, là, cette année, en tout cas, il est interdit de culture. Est-ce que vous êtes favorable à la culture dans le domaine de la recherche, au moins dans des serres? Parce que je suppose que les cultures dans le cadre de recherche sont bien isolées. Est-ce que vous êtes au moins favorable à la culture OGM dans le cadre de recherche?
Alors, comme vous ne l'avez pas dit tout à l'heure, le CIRAD, vous avez prononcé le mot, ça veut dire le Centre international pour la recherche agronomique et pour le développement. Et je pense que le CIRAD devrait coopérer avec... Bon, il y a les DOM-TOM, mais aussi... Donc la situation est différente de l'Hexagone. Et aussi avec les pays du Sud, effectivement, et en évitant une mainmise d'entreprises comme Monsanto, mais de faire de la recherche avec les pays du Sud selon les besoins qu'ils souhaitent. Leurs aspirations.
Pierre Feillet, pour terminer cette émission, vous vouliez rajouter quelque chose?
Non, moi aussi, je peux dire que mon sentiment, c'est que les questions qui se posent aujourd'hui, je les rappelle, questions d'impact sanitaire, questions d'impact environnementaux, questions politiques, questions économiques, verront progressivement des réponses apportées, que les oppositions, parfois très épidermiques, pas toujours raisonnées, s'estomperont. Que certains OGM que l'on voit apparaître disparaîtront, parce qu'ils n'auront pas apporté grand-chose, que d'autres prendront leur place, et que dans une vingtaine ou trentaine d'années, il y aura une cohabitation normale, apaisée, entre des cultures faisant appel à des plantes traditionnelles, à des plantes OGM, et que les débats un petit peu pas très sereins, hein, qui existent aujourd'hui, seront un petit peu loin. Et ma quasi-certitude, c'est que Les OGM, ce sera 20-30% ou peut-être davantage des plantes cultivées dans le monde.
Et en ce sens, les anti-OGM sont un peu des Don Quichotte, c'est-à-dire qu'ils se battent contre quelque chose, contre des moulins à vent, et que les OGM existent déjà et ils existeront toujours.
Je mets à part les contestations violentes que je ne peux pas partager. Par contre, je crois que l'expression d'inquiétude est toujours utile. Et que quand elles sont exprimées sereinement, positivement, elles font avancer le débat. Donc non, Don Quichotte d'ailleurs n'a pas été inutile. Hein.
Et Gérard Toulouse, une petite phrase pour terminer cette émission.
Moi j'ai été très heureux d'être invité en fait à la suggestion de Pierre Feillet. Et je suis sûr que dans les années à venir, nous allons réfléchir de manière constructive. Et peut-être imaginer et inventer de l'innovation sociale. C'est-à-dire, je crois que l'innovation technique doit s'accompagner d'innovation sociale.
Eh bien, merci à tous les deux de nous avoir rendu visite ici à Canal Academy pour un regard croisé assez constructif. Ce n'était pas un débat houleux où les deux invités se sont étripés, mais justement, je pense que ça a apporté des éléments de réflexion. Merci à tous les deux. Et puis, j'espère à une prochaine fois, en tout cas, une autre émission.
Merci.